sel et lumière. Voilà ce que, à la suite des béatitudes que nous avons lues dimanche dernier, le Seigneur nous propose, eh bien, de méditer. Il le dit à ses mêmes disciples qu'il a emmenés sur la montagne. D'abord les béatitudes, l'idéal, cette gratuité qui provient de l'amour et de la vérité, qui provient d'une transcendance qui nous fait vivre. Parce que ce qui distingue vraiment la foi de la non-foi, c'est le fait d'être branché sur l'éternité, et une éternité bienveillante. Une personne, Dieu d'amour et de vérité, Dieu de splendeur et de majesté, pas un néant inhabitable. Sel et lumière, c'est ce qui découle des béatitudes, de cet esprit évangélique, de cet esprit qui vient de l'Esprit de Dieu, qui n'est autre que cet Esprit Saint qui nous est infusé au moment du baptême et qui nous redonne toujours un petit coup de fouet à chaque Eucharistie, à chaque méditation de la parole de Dieu. Vous êtes, en tant que chrétien, en tant que mes disciples, dit Jésus, vous êtes le sel de la terre. Et puis, un peu plus loin, lumière du monde. On pourrait dire que ces deux parties correspondent à la vie intérieure, d'une part, et puis la vie extérieure, le témoignage, la lumière. Vous êtes le sel. Bon, le sel, ça s'apparente au goût, bien évidemment, ce qui donne du goût, de la saveur, et c'est lié au cœur du disciple. De même, le châtiment, être piétiné, les pieds aussi, c'est lié à la volonté, au cœur également. Un cœur qui est indifférent à ce qui n'a pas de saveur. Le désir, c'est donc le sel. Et un discernement, en fait, qui s'établit par l'inclination, par la volonté. Vous êtes le sel de la terre. Pour Dieu, aux yeux du Seigneur, la terre, ce n'est pas le monde matériel, ça, il s'en fiche, il l'a créé pour nous, mais ce n'est pas pour lui. Quand Jésus contemple son jardin spirituel, ce sont les âmes qu'il regarde. Et quand il dit le sel, ce sont les fleurs qui ont du goût, qui ont une belle apparence, qui sont attirantes, qui sont vivantes. Et c'est cela que Dieu regarde. Vous êtes le sel de la terre. C'est aussi l'Évangile qui donne, par ses valeurs, eh bien, de la saveur à la vie elle-même. Et qu'est-ce qui donne de la saveur à la vie? C'est pas l'argent, c'est pas le pouvoir, ça donne autre chose, mais pas de la saveur à la vie. La saveur à la vie, c'est vraiment l'amour qu'il communique. L'amour, et puis aussi, il y a la contemplation de la vérité, les grandes lois de la création, ça peut susciter également un grand enthousiasme, mais pas comme l'amour. L'amour dépasse tout, parce qu'il s'applique à des êtres vivants et pas à la matière inerte. Le contraire, c'est la spiritualité sans saveur. Une vie menée sans idéal, sans le seul idéal qui mérite d'être vécu pour la vie humaine, l'amour. Je ne me lasse pas d'admirer le corps du Christ parce que c'est une institution suscitée par Dieu, bien sûr, mais pour parler d'amour, pour s'entraîner à l'amour pur, à l'amour parfait, à se stimuler, à s'entraider pour marcher et vivre de cet amour. C'est l'Eucharistie qui est tellement savoureuse, cet aliment merveilleux qui est tout d'amour, qui est le Sacré-Cœur de Jésus. Oui, je ne me lasse pas de contempler cette Église que le Seigneur, malgré ses imperfections, bien évidemment, dans ses membres, mais en tant que projet. En tant que projet et soutenu au long des siècles par Dieu lui-même, heureusement, eh bien, elle traverse l'histoire et toutes ces idéologies et tous ces personnages tyranniques qui ont voulu dominer, etc. Elle traverse avec toujours le même étendard, l'amour et la vérité. mais l'amour. Quelle belle institution, elle est vivante, elle est pleine de sel, parce que le sel principal qu'elle détient, c'est le Christ lui-même qui la lui communique. Et le discernement, le jugement des âmes, se fait également sur la même mesure, avoir du sel, être donner du goût à Dieu par notre consécration, par notre foi, donner du goût à nous-mêmes, dans notre propre existence, parce que nous accueillons celui qui est le sel par excellence. Il y a une des églises, c'est la Odyssée, dans l'Apocalypse, c'est la dernière, je crois, il y a un jugement terrible que Dieu fait à son encontre. Que n'es-tu chaud ou froid? Que n'es-tu froide? Mais tu es tiède, et je vais te vomir de ma bouche. L'absence de saveur, c'est même pas l'opposition, c'est le non-goût, c'est le rien. Une vacuité terrible dans l'ordre de l'amour, et ça, Dieu le rejette complètement. Alors une église, parce que c'est une des églises, la Odyssée, qui veut vivre sur l'idéologie, sur les idées. Vous voyez, il y a des églises comme ça dans certains pays, l'Allemagne et autres, il y avait la Hollande avant. Et eh bien, elles se dessèchent, ces églises-là, très rapidement. La Hollande, la moitié des églises sont en vente et toutes les congrégations ferment. C'est une catastrophe. Mais ils avaient proclamé, dans les années 60, donc, exactement ce que fait l'Allemagne aujourd'hui. Seul l'amour et pas les idées, les idéologies peut changer le monde. C'est le Seigneur qui nous l'a donné, cet amour. Alors ayons confiance en lui, accueillons-le dans nos existences, et puis proposons-le. C'est le thème de la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Ah, quelle terrible responsabilité, mais en même temps facile quand on brûle de l'intérieur. Si on ne brûle pas de l'intérieur, ça devient vraiment très compliqué. Il faut échafauder des super plans pastoraux, faire des synodes dans tous les sens. Sinon, on ne parvient à rien, enfin, on ne peut rien produire. Quand on a de l'amour, au contraire, tout est facile. C'est une lumière. Et cette lumière-là, eh bien, elle désigne les yeux, l'intelligence, mais c'est aussi la lumière de la foi. Et ça veut dire, vous êtes, quand Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, et il faut briller dans le monde, il sous-entend automatiquement que le monde, lui, n'est pas dans la lumière. Il sous-entend automatiquement que le monde a besoin de lumière, et que cette lumière ne peut venir que d'en haut. C'est cette lumière-là qui compte. Celle des étoiles s'éteindra. C'est la loi de l'entropie universelle. Il y a une date butoir. La matière s'éteindra à faute d'énergie. L'énergie véritable vient d'en haut, vient de Dieu. Alors celle de la terre, avoir un cœur pur, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Et puis être la lumière du monde, briller par vos bonnes œuvres, dit Jésus, par cet amour fraternel qui doit vous habiter. Ça, eh bien c'est heureux ceux qui travaillent à la justice. Ils seront récompensés. L'amour fraternel, ça habite ce texte-là, surtout dans sa deuxième partie, lumière du monde par les bonnes œuvres. Là, on parle pas, Jésus ne parle pas ici de la proclamation de l'Évangile, mais de l'exemple. Dieu est amour, dit saint Jean dans ses épîtres, et si quelqu'un prétend aimer Dieu mais qu'il n'aime pas le prochain, eh bien il n'aime pas Dieu en réalité. Parce que pour aimer Dieu, il faut aussi aimer le prochain. C'est la mesure et en même temps le discernement qui nous permet de reconnaître l'amour que nous avons. Dieu est amour. Et être habité par ce Dieu d'amour, eh bien ça nous invite à l'amour du prochain automatiquement. Si on est vraiment en communion avec Dieu, c'est ça le raisonnement de Jean. Si vous aimez véritablement Dieu, non pas comme une idée, une idéologie, comme je disais tout à l'heure, mais comme cette personne qui vous est la plus chère au monde et plus chère que vous-même, alors automatiquement et d'une manière sans avoir à y réfléchir, vous aimez aussi le prochain, vous aimez tous les enfants de Dieu. L'amour fraternel, pour le réaliser, vous allez me dire, mais c'est impossible, c'est une utopie divine qu'on ne vivra qu'au ciel. C'est vrai, en partie. Mais c'est aussi une chose plus simple qu'on ne croit. L'amour fraternel, il ne faut pas l'imaginer, l'envisager à l'aune de ce que notre vie psychologique déclare. Il y a trop de gens qui passent immédiatement au plan psychologique quand on leur parle de l'amour fraternel. Le plan psychologique, eh bien, c'est aimer le prochain comme on aime ses enfants, comme on aime son mari, sa femme, etc. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas la fusion. Il n'y a pas d'empathie qui soit nécessaire. C'est mieux quand il y en a une, mais ce n'est pas requis. Alors qu'est-ce que c'est que l'amour du prochain s'il n'y a pas l'empathie psychologique là, qui accompagne ces mouvements d'amour avec ceux que nous aimons vraiment beaucoup? Eh bien, c'est le respect, c'est l'entraide, c'est le fait de ne pas condamner, de ne pas juger. Mais ça ne veut pas dire entrer en communion avec tout ce que l'autre partage, l'associer à notre vie intime, c'est pas ça. Cet amour-là, c'est celui-là qui est utopique. Celui-là, on ne le vivra qu'au ciel, véritablement. Il faut garder, parce que nous sommes dans le monde, dans un grand champ de bataille spirituel, il faut garder la prudence requise, la distance aussi requise. Mais l'amour fraternel, eh bien, il passe par cet accueil des autres que nous devons regarder comme des enfants de Dieu, donc comme des frères et sœurs, mais aussi se protéger de ceux qui sont contre Dieu, bien évidemment, qui veulent abattre la foi dans le monde. Le pape, là, lorsqu'il a été au Congo, au Soudan, a rappelé eh bien, que le tribalisme, c'était contre la charité fraternelle, que le tribalisme, c'était la grande cause de division et de haine en Afrique. Et il a bien raison. Tribalisme, c'est un cas particulier de tout ce qui sépare les hommes, de tous ces clivages-là, de ce monde manichéen. Si t'es pas contre moi, si t'es pas avec moi, t'es contre moi. Mais il n'y a que Jésus qui peut dire ça, parce que lui distingue les choses véritablement. Dans l'amour fraternel, on doit aimer les gens en dehors de sa tribu, en dehors de son milieu, même de sa nation, de sa religion. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut jeter à la poubelle sa religion, sa nation, sa maison, pour pratiquer la charité fraternelle. Vous voyez, c'est là l'équilibre à conserver. Être lumière du monde, eh bien, ne nous posons pas trop de problèmes, accueillons la lumière qui vient d'en haut, l'amour de Dieu, alors notre vie, nous le verrons, deviendra pleine de saveur, et nous pourrons communiquer aux autres par l'exemple, tout simplement, par une vie heureuse, eh bien, et une vie charitable, nous pourrons communiquer aux autres la lumière d'en haut.